Et je vous invite donc à retrouver l'épître de Pierre. Depuis plusieurs semaines, on est dans l'épître de Pierre, et avant de refermer ce livre complètement, il y avait un passage qui avait été sauté. C'était moi qui l'avais sauté, et donc je voudrais qu'on y revienne. Alors la lettre de Pierre, c'est la première lettre de Pierre. C'est comme on dit du concentré. Et donc c'est dense comme enseignement. Le parchemin était cher. Il fallait du temps pour recopier. Donc je crois que les auteurs ont choisi d'être dense dans leur enseignement. So 1 Peter 3, 19-22. 1 Pierre 3, 18-22. 1 Peter 3, 18-22. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Jusque-là. Seigneur notre Père, merci pour ta parole que nous pouvons ouvrir semaine après semaine ensemble. Merci parce que nous comptons sur ta parole pour nous faire grandir, pour nous instruire, pour nous corriger, nous redresser, pour nous bénir, pour nous faire du bien, nous consoler. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Permets ce matin qu'elle puisse nous faire du bien. Et je te demande, Seigneur, que ce soit là des paroles fidèles, que je puisse prononcer compréhensibles. Merci, Seigneur, de ajouter ce que tu voudras, Seigneur, pour que chacun reçoive ce dont il a besoin ce matin. Dans le nom de Jésus, je te demande cela. Amen.
Amen.
Verset 18 à verset 20. Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. À plusieurs passages, l'apôtre Pierre répète cela et le Seigneur voulait que l'on le répète souvent, le Seigneur voulait que l'on se souvienne de ses souffrances à la croix pour nos péchés. Et nous avons pris le repas du Seigneur et nous nous sommes rappelés ces choses. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes que nous sommes afin de nous conduire à Dieu. Pierre précise, il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il est ressuscité, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, celui qui était sans péché. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est une vérité fondamentale des Écritures et un enseignement qu'il faut vraiment s'associer et mettre son nom à la place. Jésus-Christ est mort pour me sauver. Il est mort pour me sauver. Il est dit ensuite qu'il est allé faire une proclamation, une déclaration, une prêche aux esprits en prison. Il s'agit d'une déclaration, quelque chose qui a été déclaré. Alors, en quoi ça consistait? Quels étaient ces esprits en prison? Ça correspondait à quoi? Il y a deux façons majoritaires de le voir. La première façon, c'est que il y a le mot esprit et le mot prison. Cela fait penser aux démons qui ont été enchaînés par le Seigneur. Et certains le comprennent de cette façon-là. Donc Christ aurait été faire une déclaration aux esprits mauvais qui ont séduit, qui ont agi et été en activité pendant avant le déluge. Et il y a une autre façon de le comprendre. Simplement, esprit se réfère aux contemporains de Noé, aux hommes, donc aux femmes qui ont été exterminés, qui ont péri sous les eaux ou par les eaux du déluge. Personnellement, c'est la compréhension que je préfère. Les termes esprit et âme sont souvent interchangeables dans la Bible. Si vous voulez regarder cela, vous pouvez ouvrir l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 23, où il est question du mot esprit, et Apocalypse 6, 9. Les questions des esprits de ceux qui sont parvenus à la perfection. Et Apocalypse 6, 9, par exemple, il est question des âmes qui sont sous le trône et qui crient pour recevoir justice. Donc les deux termes sont souvent interchangeables. Le Seigneur ressuscité a proclamé sa victoire aux hommes avant le déluge. Avant le déluge. Jésus-Christ lui-même a averti du jugement à venir en utilisant l'histoire de Noé. Et c'est intéressant de lire cela dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. Matthieu 24, 36 to 44. Matthieu 24. En ce qui concerne, c'est le long discours qu'il a fait avant de s'avancer vers Golgotha, quand il était à Jérusalem pendant la dernière semaine avec ses disciples. Pour ce qui est du jour et de l'heure de la venue du Sauveur, du retour du Seigneur, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Ainsi, le jugement par le déluge dans le passé est une figure du jugement à venir. Le témoignage du travail de construction de l'arche qui s'est prolongé pendant des années est une figure du témoignage du travail d'évangélisation de l'Église. Le temps de la patience de Dieu entre l'annonce du déluge et son arrivée, pendant tout ce temps de construction, est une figure de la patience de Dieu aujourd'hui, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3. Et donc les hommes antédiluviens, d'avant le déluge, sont aussi concernés par la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On ne connaît pas le message de Noé, on ne sait pas ce qu'il leur disait quand il était en train de construire l'arche avec sa famille. Mais on sait au moins que ces hommes avaient deux témoignages. Le témoignage des paroles mêmes de Dieu dans le Jardin d'Éden, avant la sortie du Jardin d'Éden, qui a fait la promesse que la postérité de la femme écraserait un jour la tête du serpent. Et il avait dit également à Caïn, si le mal se couche au pied de ta porte, eh ben toi, tu dois dominer sur lui. Visiblement, les gens des temps de Noé ont laissé tout cela de côté, ils ont perdu de vue qu'il y avait une postérité qui devait éradiquer le mal. Ils ont perdu de vue qu'ils devaient non pas se livrer au mal, mais avoir la domination sur lui. Et ils se sont livrés entièrement dans le mal. Les textes disent que les pensées de leur cœur se tournaient tous les jours uniquement vers le mal. En tout état de cause, la victoire de Christ à la croix et donc la pleine justification de leur jugement qu'ils avaient subi devait leur être annoncée. Et à ce stade, vous vous posez peut-être la question, mais est-ce que l'histoire du déluge est vraie? Est-ce que c'est pas un mythe? Ou est-ce que on peut dire que ce sont des faits historiques? Les paroles de Pierre et de Jésus dépendent grandement de la réponse qu'on donne à cette question. Alors, l'histoire du déluge occupe une grande place dans le livre de la Genèse. Il n'y a pas moins de 5 chapitres qui y sont consacrés. Vous connaissez cette histoire. Le genre humain s'est corrompu. Toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu décide d'exterminer l'homme, tous les animaux, tous les oiseaux. Seul Noé trouve grâce et lui demande de construire un bateau de la taille d'un paquebot moderne pour que Noé et sa famille et un couple de chaque espèce d'animal soient sauvés. Chapitre 7 décrit l'entrée dans l'arche, les 40 jours de pluie, le soulèvement des eaux, les montagnes qui sont submergées et tous les êtres vivants qui sont sur terre périssent sauf ceux qui sont dans l'arche, avec Noé en sécurité. Ensuite, au chapitre 8, il y a la description de la lente baisse des eaux. Donc, l'eau baisse lentement, 5 mois après le déluge, l'arche se repose sur la terre ferme. 1 an après le déluge, la terre est sèche et encore 2 mois, Noé doit attendre avant de pouvoir quitter l'arche. Et au chapitre 9, Dieu donne de nouvelles dispositions, un nouveau régime alimentaire en quelque sorte. La position des animaux et des hommes vont changer. Et Dieu fait une alliance avec sa création. Il n'y aura plus de déluge. La suite du texte nous renseigne que le mal a survécu dans le cœur de l'homme à travers l'arche. Hélas, le texte raconte l'histoire de la malédiction de Canaan. Le mal a survécu au déluge et au chapitre 10, le texte parle de la postérité de Noé et comment ses fils se sont dispersés et ont peuplé toute la terre. Nous sommes tous de la parenté de Noé. Il est tous notre arrière-arrière, notre ascendant. Alors, est-ce que cette histoire de Noé, quels sont les témoignages que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je voudrais passer un peu de temps là-dessus. Parce que c'est important et l'occasion en est donnée. Les traces de l'histoire de Noé se retrouvent dans toutes les civilisations antiques. Même les plus éloignés de la Mésopotamie, hein, on retrouve des éléments dans la culture, dans des éléments de l'histoire de Noé qui sont différents les uns des autres. C'est pas toujours toute l'histoire, le texte le plus complet est dans la Bible, mais on trouve des fragments de cette histoire-là. Donc en haut, bon, c'est un anglais. En Assyrie, en Perse, en Syrie, en Asie mineure, en Grèce, en Égypte, en Italie, Russie, Chine, Inde, chez les Indiens, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud également, Pérou, dans les îles d'Islande, les îles Fuji, Hawaï. Et on trouve donc des éléments de l'histoire du déluge. La description, la famille est sauvée à travers l'arche, destruction par l'eau, les animaux sauvés, la destruction universelle qui se retrouve presque sur tous. L'oiseau qui a été envoyé, l'un des petits détails. C'est le témoignage de l'histoire parmi les hommes. Il y a également des témoignages du déluge dans l'archéologie. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. La couche des fossiles qu'on trouve sous la terre a été interprétée différemment. Historiquement, c'était la théorie de la catastrophe, des grandes catastrophes qui avaient créé toute cette accumulation de couches géologiques remplies de déluges. Larousse l'a défini ainsi, la théorie qui attribue les changements survenus à la Terre, à la surface de la Terre, à des cataclysmes naturels. Donc c'est la théorie opposée à l'actualisme qu'on va voir tout à l'heure. Et la phrase clé, c'est celle-ci. La révélation de Dieu sur le passé est la clé pour comprendre le présent. On comprend ce qui se passe aujourd'hui en comprenant ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, c'est tout l'enseignement de la Bible. Tout le livre de la Genèse est là pour nous expliquer pourquoi la situation d'aujourd'hui, d'où elle vient de ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, les catastrophes, le grand déluge, sont à l'origine des couches géologiques. Au fur et à mesure que les sédiments étaient déposés, on trouve les animaux qui correspondent là où ils se trouvaient. Plus l'eau monte, elle commence à immerger. Les sédiments recouvrent ce qui est dans la mer au début, donc il y a beaucoup de poissons, de coquillages, etc. Et au fur et à mesure qu'on monte, on trouve les animaux qui vivent de plus en plus haut sur les terres et qui se retrouvent emportés par les vagues, par l'eau, par les sédiments et qui se trouvent ensevelis jusqu'à l'herbe verte. Et donc, selon cette théorie, donc, en fait, tout ça s'est passé dans les anciennes couches correspondent à ce qu'il y avait avant le déluge, et toutes les couches ont été déposées en une seule année, avec la montée et la descente des eaux. Donc ça, c'est la catastrophe, c'est l'explication avec la théorie de la catastrophe. L'autre explication, c'est l'uniformitarisme ou l'actualisme. C'est la théorie qui ne vient pas de la Bible, mais qui est le naturalisme philosophique, donc qui exclut les miracles. Et Larousse le définit ainsi. Doctrine selon laquelle les phénomènes géologiques du passé s'expliquent de la même manière que les phénomènes actuels observables, ce qui exclut les catastrophes planétaires imaginées pour rendre compte des grands événements tectoniques et des successions de faune et de flore. Et la phrase clé, c'est « Le présent est la clé du passé ». On observe ce qui se passe dans le présent et on en déduit ce qui se passera, ce qui va arriver dans l'avenir. Et donc, quand on mesure la vitesse à laquelle les couches sédimentaires montent aujourd'hui, on en déduit une vitesse et on mesure les épaisseurs de couches. Et on déduit que voilà, il fallait beaucoup beaucoup de temps pour que ça s'accumule. Et là, on parle en centaines de millions d'années dans ce cas-là pour constituer les couches géologiques. Dans un cas, on parle d'une année, dans l'autre cas, de centaines de millions d'années. Donc ça, radicalement rien à voir. Les deux théories sont là. Les deux, la théorie de l'actualisme a eu beaucoup de succès, elle est apparue au 19e siècle, parce que ça a permis à Charles Darwin de construire sa théorie de l'évolution des espèces, où il avait également besoin de beaucoup de temps. Donc ces deux théories vont ensemble, et donc la théorie du catastrophisme a été rapidement abandonnée suite à la poussée de la théorie de l'actualisme, qui permettait d'avoir des temps longs, qui permettait de se passer de Dieu pour expliquer l'origine de la terre et d'effacer cette idée du jugement du déluge. Alors, les années passent, hein. On a vu avec la venue de Philippe Bell, il nous a parlé de tout cela, et la théorie de la catastrophe, tout cela étendu au déluge, gagne du terrain quand même par rapport à l'actualisme. Et bon, c'est deux paradigmes qui s'opposent complètement. En résumé, quand Pierre parle du déluge, pour lui, il parle en tout cas d'une terrible catastrophe qui a frappé la terre et l'a frappé en raison de la méchanceté des hommes. Le déluge est un jugement qui a eu lieu dans un passé qui n'est pas si lointain et nous avertit du jugement, d'un sérieux jugement qui est à venir. Donc on a vu que Noé et sa famille avaient une foi agissante. Ils ont eu foi dans ce que Dieu disait et ils ont construit l'arche, une foi agissante. Ils ont construit ce bateau hors norme, incompréhensible de pouvoir construire un bateau pareil, un paquebot, avec toutes les dimensions pour être parfaitement adapté à la haute mer. Ils sont entrés dedans et ils ont été sauvés. Alors comment faire pour être sauvé aujourd'hui? Comment faire pour être sauvé aujourd'hui? La suite de notre texte dit: c'était une figure, nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances et se trouve à la droite de Dieu. L'engagement d'une bonne conscience est essentiel pour être sauvé. Se repentir, changer de direction, je ne prends plus de plaisir dans ce qui s'appelle de l'idolâtrie, dans la recherche de sa propre satisfaction, de sa propre sécurité. Et est-ce que je suis en train de pencher dans l'idolâtrie ou pas? On dit que le corps humain est une fabrique d'idoles. Et les questions que l'on peut retenir, c'est qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Toutes ces choses-là, si c'est la réponse, c'est le Seigneur, c'est mon Dieu qui me donne de la joie. C'est avec lui que je me sens en sécurité. C'est lui qui me fait vibrer. On peut dire que voilà, on est dans la bonne direction. Mais si c'est d'autres choses qui ont pris cette place-là, alors il faut revenir à Dieu. Il faut se repentir. Je me tourne vers Christ pour demander pardon de mon péché avec sincérité, avec humilité. Et je décide de marcher dans une vie nouvelle, proche de Dieu et dans une vie qui est loin du péché. La repentance, l'engagement d'une bonne conscience. Plongé en Christ, Noé et sa famille ont survécu au déluge en étant dans l'arche, cachés en elle. Nous survivrons à la juste colère que méritent nos fautes en étant en Christ, cachés en lui. L'apôtre Paul l'exprime ainsi en Romains chapitre 6, versets 3 à 16. Romains chapitre 6, Romains 6, verset 8. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car la mort, il est mort et c'est pour le péché. Il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Christ a souffert une fois pour toutes, pour les péchés, a écrit Pierre. Plongé en Christ, à l'abri en Christ. Mort avec Christ, ressuscité avec Christ. L'application ici, c'est est-ce que se faire baptiser, bien évidemment, prendre les eaux du baptême. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il est sous-entendu que le candidat pour le baptême est conscient de ce qu'il fait. Ce ne peut pas être un petit bébé, évidemment. Autrement, Pierre n'aurait pas écrit ainsi. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit conscient de ce qu'il fait. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? En Actes chapitre 6, verset 4, 6 à 36, c'était l'eunuque qui a posé cette question. Si la repentance et la foi sont là, si la confession des fautes et la confession de Jésus-Christ comme sauveur est là, si le désir de s'engager et de marcher à la suite du Seigneur Jésus est là, rien ne empêche que d'être baptisé, c'est quelque chose qui est important également, d'être fait pour obéir à Christ. Alors, j'ai résumé ainsi ce passage. Comme jadis, l'arche pour Noé, Jésus-Christ sauve aujourd'hui ceux qui sont en lui. Allons prier. Seigneur, merci pour l'apôtre Pierre. Merci pour la réalité des choses qui se sont passées naguère et leur importance pour comprendre, pour être une image de ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Les gens attendaient, ils ne faisaient pas attention que tu avais dit que un jour le déluge viendrait. Et ils ont vu le bateau qui se terminait. Et ils n'ont pas bougé. Et ils ont continué leur vie et le déluge les a tous cueillis. Seigneur, que cela ne nous arrive pas à nous, que la mort ne vienne pas nous faucher sans que nous soyons rentrés dans cette arche qui est la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour échapper à la colère de Dieu. Merci pour le fait que c'est bien notre cœur qui a besoin d'être lavé. Ce ne sont pas notre corps, ce ne sont pas nos vêtements, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Merci pour le pardon de nos fautes, pour cette nouvelle vie, cette nouvelle création. Merci pour l'Esprit Saint que tu accordes à ceux qui se tournent vers toi, ceux qui se repentent par la foi. Et Seigneur, merci de faire grandir également le nombre de ceux qui se tournent vers toi et qui prennent la décision, oui, d'être baptisés, de déclarer haut et fort ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie et de s'identifier à tous ces chrétiens qui les ont précédés à rentrer dans la grande famille de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu appelles encore aujourd'hui, et je te prie de le faire maintenant. Si des personnes ne te connaissent pas comme le Seigneur de leur vie, qu'ils ne continuent à suivre leur chemin sans faire attention à toi, te demander Seigneur de les attirer à toi. Pourquoi ne pas se convertir maintenant? Pourquoi ne pas s'avancer vers les eaux du baptême? Et à nous, qui avons fait cet acte de foi, peut-être depuis bien longtemps, tu sais où nous en sommes sur notre chemin, sur notre parcours spirituel, ne permette pas que nous nous détournions de la marche de disciples de Jésus-Christ, de suivre notre Seigneur avec fidélité, que nous nous laissions distraire par les distractions que nous propose le monde pour que le jour du Seigneur vienne nous surprendre. Comme le Seigneur nous a dit de veiller et de prier, on ne savait pas quand il arrivera. Les gens du temps de Noé ne savaient pas du tout, ils ne se rendaient absolument pas compte de ce qui allait se passer, de cette terrible eau qui allait monter et les submerger tous. Euh, Merci de prendre soin de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.